J'ai fait une erreur de vocabulaire, j'ai inventé un mot, j'ai dit haltérophiliste alors que c'est haltérophile, mais je parle tellement des spécialistes que j'ai rajouté « iste » pour dire qu'elle était une haltérophile spécialiste, étant donné que c'est une médaillée d'or. C'est de l'humour. Maude Charron, bonjour.
Bonjour.
Dites-moi, Maude Charron, vous êtes revenue en sol canadien, est-ce que vous êtes différente que quand vous êtes partie?
Non. Non, pour moi, je suis toujours la Maude Charron, la même Maude Charron. Je reviens juste à une médaille d'or autour du cou, mais ça change aucunement la personne que j'étais.
Ça change pas la personne que c'était, mais ça va certainement changer la perception que les gens ont de vous, parce que il faut que je vous fasse entendre un compliment que votre père vous a... Vous savez que j'ai parlé à votre père un peu plus tôt la semaine dernière, hein?
Oui, j'ai su ça.
Ouais, il vous a fait un compliment.
Okay. C'est une fille qui a une détermination, qui veut des choses, qui essaye, qui se développe, qui ose. Donc, elle a une tête de cochon.
Ça prend ça des fois. C'est un compliment.
Ben oui, ben puis ça me surprend pas en fait. Cette tête de cochon là, je l'ai pas pris du voisin là.
Vous êtes pas juste une spécialiste en levée de poids. Vous pouvez jouer au tennis, vous relancer la balle assez rapidement.
Exactement. C'est comme ça marche dans la famille.
Dites-moi, moi, évidemment, tout le monde est admiratif de ce que vous avez fait comme performance. Mais moi, ce qui m'interroge le plus, c'est ce que ça prend de façon sous-jacente pour en arriver là. Et quand j'ai passé ce compliment-là, qu'on a décidé de dire ça, c'est parce qu'il y a une leçon à tirer par votre exemple pour bien des gens dans la vie qui pourraient être tentés de prendre un chemin pour leur carrière et leur vie et qui n'osent pas. Alors que vous, c'était pas dessiné d'avance, puis vous avez décidé rapidement d'aller là et vous avez gagné une médaille d'or. Qu'est-ce que c'est qui est là? Qu'est-ce qui nous anime à dire « Ah, gardons, c'est là que je m'en vais. »
Ben moi, ça, c'est quelque chose que ma mère, mes parents m'ont toujours dit, autant à moi qu'à mon frère, ma sœur, c'est de ne jamais rien regretter. Alors, t'es mieux d'essayer quelque chose, que ça soit pas le résultat escompté ou la conclusion escomptée, ben au moins tu l'auras essayé. Fait que quand j'ai eu l'opportunité d'essayer l'haltérophilie, ben je me suis dit, ben pourquoi pas? Si j'aime ça, tant mieux. Si j'aime pas ça, ben au moins je l'ai réessayé.
Ah donc, on laisse pas des goûts de côté, on l'essaye, c'est pas plus grave, on fera autre chose, on se reprendra, puis on recommencera.
Exactement. Il y a des occasions, des fois, dans la vie qui nous arrivent par hasard. Ben, faut saisir ces occasions-là. Il n'y a pas aucun chemin qui est droit dans la vie. On prend des détours, puis c'est tout à fait normal. C'est pour ça que chaque être humain est différent, parce qu'on a tous choisi des chemins différents. On a tous des traits de caractère différents.
Ce qui ajoute, cependant, la difficulté, c'est d'être capable de vivre seul. C'est pas un travail d'équipe. C'est pas, vous n'avez pas de confrères et de consoeurs. C'est nous, devant nous-mêmes, dans la capacité de contrôler sa discipline pour être capable d'aller plus loin. Ça aussi, c'est une autre belle leçon.
Oui, ben en effet, c'est un sport qui est individuel. C'est pas un sport qui est d'équipe. Mais par contre, faut pas oublier que moi, même si je suis la seule à monter sur le podium, j'ai une énorme équipe derrière moi. Cette médaille-là que j'ai gagnée, je l'aurais pas gagnée sans mon entraîneur. C'est vraiment 50-50 ce qui s'est passé à cette compétition-là. Moi, j'ai levé les barres, mais mon entraîneur, lui, a suivi le déroulement de la compétition. C'est lui qui demandait les bonnes charges au bon moment pour avoir un bon classement. Donc ça, c'est vraiment un énorme travail d'équipe. Puis là, ben on parle pas de tous les spécialistes qui m'ont suivi, préparation mentale, suivi santé physique, etc. Ma famille qui m'ont supporté. C'est un sport individuel, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde derrière les athlètes.
Est-ce que vous avez hypothéqué votre corps pour l'avenir? Vous êtes toute jeune, une toute jeune femme. Est-ce que l'haltérophilie, ça peut maganer?
Ben je pense que n'importe quel sport élite, travailler à un niveau élite hypothèque à un certain point le corps. Rendu là, c'est un peu la responsabilité de l'athlète de prendre soin de son corps. Moi, durant la pandémie, j'en ai profité pour aller voir un kinésiologue. Donc, juste pour aller voir si mes angles de squat, de travail et de charge étaient adéquats, d'aller chercher les muscles qui ne travaillent pas ou dépendent de d'autres muscles qui ont trop pris la charge de travail, justement pour rallonger un peu la durée de mon corps et d'éviter les blessures.
Quand on atteint l'objectif ultime. Est-ce qu'on arrête ou on continue?
Il y en a qui arrêtent quand ils sont au sommet, il y en a qui continuent. Moi, dans mon cas, je regarde ce qu'il y a en avant. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne vis sans regret. Alors, il y a plusieurs autres compétitions au calendrier que je souhaite participer. Donc, pour moi, ça ne s'arrêtera pas là. Je ne sais pas si ça sera les prochains Jeux olympiques. Malheureusement, le sort de l'haltérophilie aux Olympiques n'est pas entre mes mains. Mais pour moi, ce qui est de l'haltérophilie, je vais continuer encore quelques années.
Maud Charron, il y a des équipes qui ont des opportunités extraordinaires, des équipements, des gymnases. Vous avez fait ça dans le garage chez votre père?
Oui, en effet. je pense qu'il n'y a pas vraiment d'infrastructure idéale. Je pense que l'infrastructure idéale est propre à chacun des athlètes. Moi, ce qui est idéal, c'est de m'entraîner chez moi, dans mes affaires, près de ma famille, de mes amis, que je sois seule ou en équipe. Ça joue pas nécessairement ma motivation. Moi, de m'entraîner dans le garage à mon père avec mon chien, c'était mon environnement adéquat. Il y en a que c'est d'autres choses. Moi, c'était ça.
Vous, ça créait votre équilibre, votre bien-être pour être capable d'aborder la souffrance, parce qu'on souffre.
Oui, ben c'est une souffrance, c'est sûr. Ça nous tente pas tous les matins là, de se lever pour aller lever des poids. Mais le fait d'être chez moi puis d'être proche de mes proches, ça m'a aidé à continuer de persévérer.
Quand on commence puis on s'en va là, il faut avoir en tête la visualisation qu'on va avoir de la première marche du podium, la deuxième ou la troisième, ou si on se dit un podium, ça va être correct.
Moi, quand j'allais aux Olympiques, je ne visais aucunement un podium. Il y a 4 ans, quand j'ai commencé le processus de sélection, je voulais seulement me qualifier aux Jeux Olympiques. C'était même incertain là, que je me qualifie aux Olympiques. Plus les années ont avancé, plus mon niveau a monté, mon classement mondial aussi. Et même avec un bon classement mondial, je ne voulais pas me mettre une pression inutile, une demande d'un résultat. Donc, je suis allée là. Moi, je voulais juste avoir l'expérience. Donc, les premiers pas, j'ai fait au sol japonais, dans le village olympique. Pour moi, mon expérience était déjà faite. Je devenais une Olympienne, puis j'avais pas besoin d'un podium pour être contente.
On a-tu à quelque part en arrière de la tête dire, là, je m'en viens compétitionner. Moi, je suis, excusez-moi le mot anglais, je suis clean, puis je pourrais compétitionner avec des tricheurs.
En fait, il y a une phrase que Christine Girard a dit que moi, qui me résonne toujours en tête, c'est que quand tu sors du Canada, on n'est plus à égalité. On compétitionne contre un système, on compétitionne contre une certaine corruption. Par contre, faut souligner que durant les dernières années, il y a eu beaucoup d'efforts pour justement nettoyer le sport d'haltérophilie pour que les Olympiques soient le plus propres possible. Et pour vous informer, en fait, dans mon groupe à moi, on était 10 athlètes et des 10 athlètes, 8 ont été testés après les Jeux olympiques. Et on m'a aussi dit qu'avant les Jeux olympiques, tous les athlètes ont été testés par un programme d'antidopage fiable entre 6 à 3 mois avant les Jeux olympiques. Okay. Donc, juste de savoir ça, ça donne confiance.
Vous dites, Maud Charron n'a pas changé, mais votre vie va changer.
J'espère qu'elle va changer à la positive.
Oui, bien sûr.
Pour moi, tu sais, mes objectifs de carrière professionnelle, etc., ne changent pas pour autant. Je vais rester la personne que je suis avec les mêmes objectifs.
Dans le même univers, allez-vous être à la limite éventuellement entraîneur? Allez-vous demeurer dans le sport? Est-ce que c'est ça votre vie, le sport? Ou si ça donne que vous êtes passé du hautbois à la gymnastique, de la gymnastique à l'haltérophilie, on s'en va où là après?
Moi, j'ai comme désir de devenir policière, donc j'aimerais éventuellement faire cette profession-là. Par contre, ma lutte, en fait, pour développer le sport en région, je l'ai toujours à cœur. Donc, j'aimerais peut-être éventuellement ouvrir un club dans le Bas-Saint-Laurent, essayer d'aller un peu partager ce sport-là dans les régions où c'est moins populaire. C'est dans mes projets. C'est pas encore concret, mais j'y réfléchis.
Ben, moi, je pense que vous allez devenir un modèle. Je sais pas, pour bien des jeunes, pour une belle jeunesse. Et je pense que en donnant l'espoir que si on a un objectif, qu'on y tient, puis qu'on a une petite tête de cochon, mais bien tournée, je pense que vous enlevez du poids à bien des gens qui ne savent pas c'est quoi leur lendemain. Merci beaucoup, Maude.
Ben, merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. J'apprécie beaucoup.
Merci. Au revoir. Bonne chance.
Au revoir. Merci. Au revoir.